Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief ensemble l'actu tech, comme chaque soir. Merci en tous les cas encore une fois d'être là. Avec ce soir sur le plateau de Tech & Co pour commenter l'actu, nous avons Clément David. Salut Clément.
Salut.
Bienvenue. Las Vegas. Tu vas nous raconter dans quelques instants. Tu vas être obligé, mais tout. Parce que bon, Google Cloud, c'est sympa, mais après, il y a tout le reste. Qu'est-ce qu'a fait Clément David le soir à Las Vegas ?
Je vais te raconter ce que j'ai pas fait, surtout.
Vous le saurez juste après la pub. Non, on va pas faire ça comme ça. À ses côtés, il est beaucoup plus sage.
Ouais.
Enfin, je pense.
Je vais te raconter les soirées d'Aix-en-Provence, mais bon, il y a moins de cloud et moins de...
Il n'y a pas encore les cigales.
Et moins de soirées. Non, il n'y a pas encore les cigales.
Pas encore réveillé. Frédéric Bianchi.
Surtout pas aujourd'hui.
Journaliste à BFM Business. Et en face de vous, messieurs, c'est Jérôme Marin qui est là. Salut Jérôme.
Salut François.
Ravi de t'accueillir dans Tech & Co. Un vrai expert de la tech aussi, fondateur de la newsletter Café Tech. Voilà, une newsletter à la pointe de la tech, c'est le cas de le dire.
Merci.
Alors, c'est payé. Hein,
non, c'est gratuit.
C'est gratuit ?
Oh, bah oui.
Qui c'est qui m'avait dit que c'était payant ? Bah, tu sais quoi ? En fait, je l'ai lu et je me suis dit, c'est tellement bien que ça doit être payant.
Exactement,
en fait, c'est gratuit.
Ça doit être ça, ouais.
Donc, si vous voulez vous abonner à cette newsletter Café Tech, ça va, je m'en suis bien sorti.
C'est, franchement,
je suis retombé sur mes pattes.
Un vrai professionnel. On dirait que c'est ton métier.
Ouais, enfin, des fois, on est quand même un peu maladroit. Donc, dans l'actu, on va parler d'Apple tout à l'heure avec trois sujets intéressants concernant Apple. Les ventes qui s'effondrent, les ventes d'iPhone qui s'effondrent. Quand on sait que c'est la vache à lait d'Apple, c'est pas bon signe. Apple qui aussi commence petit à petit à distiller quelques informations. Alors tout ça, c'est des rumeurs concernant iOS 18 et Apple miserait beaucoup sur l'intelligence artificielle sur le nouvel iPhone 16. On va en parler. Et puis Apple qui veut accélérer aussi au Vietnam. Vous le savez, dans cette volonté de diversifier son industrie, il y a la Chine, bien sûr, mais petit à petit, il faut que les iPhones soient fabriqués en Inde. C'est le cas de le dire. C'est le cas d'en parler puisque ça a été l'un des sujets de la semaine dernière de Tech & Co, mais aussi au Vietnam maintenant. Mais pour débuter, donc, un mot quand même, Clément, tu vas pas passer à côté. Ça va, t'es pas trop fatigué, t'as l'air bien.
Non, j'ai pris le soleil une journée.
Rappelons que tu étais avec nous la semaine dernière.
Mardi dernier, je sais plus.
Je sais plus si c'était mardi
la
ou mercredi.
La keynote était le matin, mardi matin là-bas, et donc mardi soir ici.
Voilà, tu étais à Las Vegas pour le grand rendez-vous cloud de Google, Google Next.
Google Next.
Voilà. Merci pour cette visio, c'était très sympa.
C'était top.
Comment ça s'est passé ? C'était cool alors, Google à Las Vegas ?
Bah déjà moi, première fois à Las Vegas. Avant Google, il faisait à San Francisco. Et il se trouve que la ville a les problèmes qu'on connaît de sécurité, etc. etc. Donc en fait, maintenant ils ont migré vers Las Vegas. Je vais te dire, vrai truc, on m'a invité jeudi soir à l'UFC 300. Qui est, tu sais, le grand événement de sport de combat de l'année, etc.
Ouais, ouais.
Et je repartais, et c'était samedi soir. On m'invitait jeudi soir en me disant, ah, si tu es dispo samedi soir, voilà des places. Je repartais le vendredi matin. J'ai vraiment hésité à décaler mon avion. Il y avait Tech & Co le lundi soir. J'ai dit non.
Oh, c'est pas vrai. T'as préféré Tech & Co qu'à l'UFC?
Ce que je dis en plateau, oui, c'est pour ça que j'ai préféré.
Ah ouais. D'accord.
Pour que Léa soit...
C'est moins violent en général.
C'est... Fred n'est pas là, mais quand c'est Fred Simotel...
Alors, on ne va pas revenir sur toutes les annonces que tu
non,
as pu commenter.
La tendance un peu globale.
Voilà, comment... IA, bien évidemment, ouais. Etc.
Il y a trois trucs à retenir. La première chose, c'est que la compétition entre copilotes et entre les outils Google...
Gemini va être
féroce. Premier truc, ça se rend pour coup en termes d'annonce. La deuxième, c'est que Action, le processeur qui a été présenté de Google, c'était, moi, je le savais pas en amont, c'est quand même une chouette innovation. Ça veut dire, on va parler beaucoup de puces encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la concurrence s'intensifie, ça veut dire que chacun cherche des solutions pour être le moins dépendant possible de Nvidia notamment.
Chacun veut fabriquer sa puce.
Ça va être surtension sur le marché. Et puis, dernier truc, c'est vrai que dans les allées, entre guillemets, les discussions sur VMware, alors si on n'est pas dans le cloud, on n'a pas suivi, mais qui fournissait énormément d'entreprises et dont les tarifs, après le rachat par Broadcom, ont été très très violemment multipliés par entre 4 et 11 selon à qui vous parlez, et on leur a dit un mois avant, et si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. C'est des discussions qui inquiètent tous les dirigeants tech des entreprises françaises comme étrangères. C'était le troisième gros sujet. C'est pas un sujet Google, mais Google, AWS et Microsoft sont sur le sujet parce qu'évidemment, ça impacte leurs propres clients.
Juste, je me permets de rajouter quelque chose. Je pense que ce qui était intéressant avec cette conférence, c'est qu'elle a beaucoup impressionné, en fait. Beaucoup d'analystes, rappelez-vous, il y a un an et demi, quand ChatGPT est arrivé, on disait, ah là là, Google, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être dépassés, ils ont pris du retard sur Microsoft.
Mm-hmm. Et cette ils ont mis un an à encaisser le coup. Hein,
ils ont mis quelques mois, on va dire. Mais là vraiment, cette conférence a été très bien accueillie. Ouais. Et on a l'impression que Google, ça y est, a mis la machine en route.
Allez.
Et que voilà, maintenant ils sont prêts à rivaliser et que finalement ça va pas être tout du Microsoft, tout du OpenAI, et qu'il y a Google et qu'il faut pas mettre Google de côté, en fait.
Ce qui a été très dur pour eux, c'est qu'ils étaient en avance ou au moins aussi bien sur le produit large et qu'ils ont été dépassés en termes de com, et qu'en interne ça a été vécu comme une grosse injustice en disant nous on a essayé de faire les choses bien, de faire un truc plus sécur, moins tape à l'œil, etc. Et résultat, on a tiré après et personne se rend compte qu'en fait on est largement des leaders sur le sujet. Ça commence à se rééquilibrer un peu.
Ok, voilà, jackpot, t'en as fait quelques-uns ou pas?
Écoute, j'ai même
t'as
pas joué.
T'as même pas mis une pièce dans une machine à sous?
J'ai pas joué, je me suis dit faut le faire, j'avais pas le temps. Et alors que même au bar, tu sais, tu peux jouer des trucs. Ouais. Et à un moment, je suis parti, je me suis dit j'ai même pas joué un centime, quoi. Enfin,
bon. Il est trop sérieux, ce garçon.
Boulot.
Tu parles. J'aurais bien voulu être une petite souris, tiens, avec Clément. Allez, on attaque l'actu. Maintenant, on le disait, Apple qui est voilà sous le feu des projecteurs et pas forcément pour des bonnes choses en ce moment. Entre le DMA qui complexifie les choses, les amendes à droite à gauche, même le gouvernement américain hein, qui attaque en justice Apple concernant des abus de position dominante. Cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est les chiffres de vente de l'iPhone qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que autant le dernier trimestre 2023 avait été plutôt bon, hein,
très bon.
Mais là, le premier trimestre, Samsung est repassé devant Apple. Et même en Chine, c'est pas bon. En Chine, je crois que Apple a perdu je sais pas combien de places.
Surtout en Chine.
Il y a même des acteurs qu'on ne connaît pas, comme Transsion. Je sais pas si vous connaissez, ouais, Transsion.
Très bien.
Hein? Alors moi, pourtant, Dieu sait si je suis dans le sérail depuis un moment. Hein. Je n'avais jamais entendu parler de Transsion.
En Afrique, principalement.
Ils sont en Afrique. C'est une marque chinoise.
Alors, ils attaquent l'Europe via, je crois, la République tchèque ou l'Europe de l'Est. Mais pour le moment, c'est une marque qui est présente.
C'est même un groupe
en Afrique via plusieurs marques.
La marque n'existe pas. C'est un groupe.
Oui.
Ils ont trois marques différentes, en fait. Mais Transsion, c'est pas une marque, en fait. C'est juste le groupe.
C'est ça. Ouais. Apple, la débâcle la plus totale. Est-ce qu'on peut essayer d'analyser tout ça, Jérôme?
Déjà, je pense qu'il faut nuancer les chiffres, parce que là, on parle d'exemplaires qui sont livrés, pas qui sont vendus. C'est-à-dire les nombres d'iPhone qu'Apple envoie aux distributeurs et pas le nombre d'iPhone qui sont vendus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au quatrième trimestre 2023, Apple a envoyé beaucoup d'iPhone, plus 12% par rapport à 2022.
D'accord.
Et ils en ont envoyé trop, en fait.
Et donc les là, chiffres, ils payent justement.
Voilà, il y a un effet de rattrapage, en fait. Les chiffres de fin 2023 n'étaient pas aussi bons que ça, en fait. Et forcément, comme les distributeurs se retrouvent avec un paquet d'iPhone dans les stocks, eh bien, ils en achètent moins. Et c'est notamment en Chine. En Chine, il y a eu moins 40% sur les livraisons d'iPhone en janvier. Janvier, c'est un gros mois en Chine parce qu'il y a le nouvel an chinois. Donc ça fait moins 40%. Donc forcément, ça a un impact sur les chiffres du trimestre. Mais globalement, il y a quand même une tendance, notamment en Chine. Donc déjà, le marché chinois, c'est un très gros marché. C'est le premier marché mondial sur les smartphones. Il reste sur deux années très compliquées sur les ventes en Chine. Ça commence à repartir. Le problème d'Apple, c'est que Huawei est revenu. Huawei est arrivé avec son nouveau smartphone. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Son premier smartphone 5G depuis 4 ans.
Le P60 et le P60 Pro. Voilà.
Et qui est un succès, en fait, en Chine. Et beaucoup de consommateurs chinois qui étaient chez Huawei, qui sont pas chez Apple, retournent chez Huawei, notamment parce qu'il y a du patriotisme qui joue beaucoup dans ces affaires-là.
Le patriotisme a son mot à dire là-dedans, parce que finalement, Apple, quand tu es entré un peu dans la spirale, bon, voilà, c'est compliqué d'en sortir.
Ouais, mais la
Chine, c'est un peu différent, parce qu'en plus, il est fabriqué en Chine, ce téléphone, donc il pourrait très bien se dire, c'est une boîte américaine, mais ça fait travailler des centaines de milliers de compatriotes.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'Apple n'a pas grande difficulté avec le gouvernement chinois. Mais là, le côté, le nouveau Huawei, c'est qu'il y a une avancée technologique majeure, c'est que la puce a été gravée en Chine. Et donc, il y a vraiment un vrai sentiment de fierté et de revanche, en fait. De revanche sur
Huawei. Oui, c'est du vrai made in China.
Ah là, oui, c'est fabriqué et conçu en Chine, en fait. Ce qui n'est pas l'Apple, en fait. Ce qui n'est pas l'iPhone.
C'est dingue. Et ce P60 Pro, alors, vous n'en verrez pas l'ombre ici en France, parce qu'il n'est même pas commercialisé, hein, étant donné qu'il n'a pas les services Google. À partir de là, un Android sans les services Google, ça devient compliqué. Mais il y a eu des tests qui ont été faits. C'est l'un des meilleurs photophones du moment. Il enterre les derniers iPhone 15 Pro, enfin tous les téléphones, quoi. C'est incroyable. Clément, sur ce sujet, Apple,
ouais,
iPhone.
C'est intéressant parce qu'en fait, on se voit se dessiner, et on en discutera pour Tesla, des tensions Amérique-Chine qui sont, qui reviennent, qui étaient très à la mode il y a 4-5 ans, qui là redeviennent des sujets importants, notamment en termes de concurrence, parce qu'on se demande si Trump va revenir et si ça va mettre le feu aux poudres, etc., etc. Donc tout le monde est en train de placer ses pions pour voir comment est-ce qu'on réduit sa dépendance, comment est-ce qu'on se positionne sur le marché du copain, etc. Dans ce contexte-là, voir qu'en effet, les marques chinoises sont des vrais concurrents et reprennent des parts de marché, c'est inquiétant, surtout que c'est exactement le même scénario que ce qu'on a décrit sur la voiture, c'est-à-dire que, et c'est ce que tu disais là avec le téléphone Huawei, c'est que ils font des très bons produits. Tu vois, là, il y a deux secondes, on disait Made in China. Quand moi, j'étais ado ou quand j'étais petit...
Ouais, quand on disait Made in China,
c'était ton jouet du McDo, tu vois.
Ouais,
ton jouet du McDo, il était Made in China. Là, ce qu'on voit arriver pour les voitures électriques et qu'on voit arriver pour les smartphones, qu'on savait déjà pour Huawei, etc., mais qui se confirme, c'est qu'ils font du très haut de gamme, beaucoup moins cher. Compliqué.
Oui, c'est clair.
Non, Fred. Moi je pense qu'Apple paye aussi un peu son manque d'innovation depuis quelques années. On a un peu tout le temps le même produit qui est de très bonne qualité, qui est sans doute plus performant que la concurrence, mais qui est aussi quand même beaucoup plus cher.
Difficile.
Samsung arrive avec un S24, alors qui est à peu près dans l'entrée de gamme coordonnée sur les prix, mais après il y a quand même un vrai décalage qui se fait. Samsung, il communique énormément. On peut pas sortir dans la rue, écouter un podcast sans avoir des pubs Samsung. Mmh. Alors, il communique beaucoup sur les smartphones pliants, mais malgré tout, on est dans une ambiance Samsung en ce moment.
Et puis je sais pas si tu as remarqué, il communique aussi sur l'AI. C'est le Samsung Galaxy S24 AI.
Voilà.
Ça fait partie du nom du modèle du téléphone.
Je pense pas que ce soit encore une killer app aujourd'hui, l'AI. C'est pas ça qui va nous faire acheter un smartphone, mais on se dit, Samsung, ils sont dans le client, Samsung, ils sont dans l'AI, Samsung, ils sont un peu moins chers. Voilà. Donc peut-être que sur les marchés, alors on n'a pas les, enfin j'ai pas les parts de marché sur les marchés occidentaux, mais c'est vrai que je crois que Samsung a progressé en Chine. Donc on se retrouve finalement avec un iPhone qui fait bien le job, mais qui est toujours le même et qui crée plus d'excitation, d'autant que il y a la concurrence chinoise qui montre des muscles, un Huawei qui arrive, qui a, c'est un petit peu l'événement de l'année quand même, le P60 avec la puce gravée Made in China. On a parlé un peu que de ça cette année.
Oui, c'est vrai.
Et finalement, Apple,
c'est un mystère d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'ils ont à proposer
pour les ingénieurs?
Ils n'ont pas l'intelligence artificielle qui arrivera peut-être avec l'iOS 18 en fin d'année. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Ils sont toujours plus chers. Ils n'ont pas de clients. Enfin voilà. Donc ils proposent un peu toujours le même form factor depuis quelques années.
Après.
Donc il y a peut-être un petit effet. Bon, et si on essaye autre chose?
Le marché n'est pas... Le marché du téléphone n'est pas un marché de grande innovation de rupture en général. C'est-à-dire que, en gros, à part sortir un plus bel appareil photo, oui, de temps en temps, ça se plie. Bon, là, il y a l'iPin. Bon, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée d'innover, mais au global...
Pour l'iPin, c'est même plié, j'ai envie de dire. Mais bon, on va en parler dans un instant.
Propre. Allez. Joli.
Je vous l'offre.
Mais le truc, c'est... après, il ne faut pas imaginer que Huawei ou un quelconque concurrent comme Samsung apporte beaucoup plus en termes d'innovation aujourd'hui que les iPhones. Hein. C'est un marché où on se ferme.
Je pense qu'il ne faut pas trop surréagir sur les chiffres du premier trimestre. Oui, 2023, oui. C'est la première année où Apple était numéro 1 du marché devant Samsung. Samsung était premier depuis, je crois, 2012. Mmh. Apple est passé devant. En fait, déjà, le marché est baissier, ça, c'est clair. Ça commence à repartir. Donc, il faut attendre. Là, je pense qu'il y a un effet de rattrapage par rapport au quatrième trimestre.
Oui. Et puis, n'oublions pas aussi, excuse-moi, je te coupe, que le Samsung S24 a été annoncé fin janvier, début février. Donc, en fait, il bénéficie de l'attrait de la nouveauté pour le premier trimestre.
Et Samsung,
et là, il a grappillé des parts de marché.
Chaque année, il sort en début d'année.
Cette année, avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il tire un peu leur épingle du jeu. Parce qu'il raconte une histoire.
Il avait une histoire nouvelle à raconter.
Parce que, excusez-moi, entre le 14 et le 15, quelle histoire Apple a raconté? Les téléphones sont quasiment les mêmes.
Mais si tu regardes les chiffres, Samsung, ils sont en baisse aussi. Hein. Samsung, ils sont à moins 1% sur le trimestre. Ouais. Apple est à moins 10.
Après, on est dans une période de crise économique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est...
Non, mais le marché monte de 8.
Comment?
En fait, le marché monte de 8. En fait, aujourd'hui, qui gagne des parts de marché? C'est les acteurs chinois.
Ouais.
C'est Oppo, c'est Xiaomi.
Mais ils ne sont pas sur le même segment de prix non plus.
Ah, ben ils commencent à quand même augmenter.
Ça augmente, mais c'est un peu l'histoire de Samsung, tu sais, qui commençait à 500 euros et puis qui un jour. Mais là où je te rejoins, c'est que les Chinois deviennent de plus en plus chinois. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'on est dans un marché globalement où les biens chers en ce moment, les gens n'ont pas d'argent. Quoi.
Mais en même temps, là où Apple est un peu sauvé, entre guillemets, c'est que le prix moyen de vente, donc le prix moyen de l'iPhone, augmente. Parce que les iPhones sont toujours plus chers et que les consommateurs achètent toujours les iPhone de plus en plus cher, même si le marché est baissier.
Mais on est d'accord que ces chiffres, ces mauvais chiffres, c'est quand même assez rare pour Apple.
Oui, bien sûr. Mais c'est rare, mais ça fait deux ans.
Oui.
Ça fait depuis 2021. 2021, c'est le pic sur les smartphones.
Et ça va être intéressant de voir comment Apple réagit. Et on attend avec beaucoup d'impatience la WWDC, hein, cette conférence des développeurs.
Sur l'IA, justement.
Sur l'IA. Espérons qu'Apple puisse reprendre la main. Enfin, espérons. En tout cas, on va les écouter avec beaucoup d'attention pour voir comment ils vont s'en sortir de tout cela. Toujours, bah justement, tiens, puisqu'on évoque cette WWDC, visiblement, on aura plus d'informations concernant iOS 18, qui sera donc disponible à la rentrée prochaine, qui arrivera évidemment sur les nouveaux iPhones, probablement sans doute à 99,9% des iPhone 16, et qui arriveront aussi sur les précédents modèles. Hein. Et cette iOS 18 devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle. Ça, on le sait depuis quelques mois. Ce qu'on sait, enfin... ce qu'on murmure et la rumeur en fait qui circule actuellement, des rumeurs qui sont toujours bien orchestrées par des, on va dire, les espions d'Apple qui savent tout avant tout le monde, il y aurait en fait de l'intelligence artificielle dans le téléphone avec un processeur qui serait adapté pour, hein, c'est ça Jérôme?
Ouais, ben en fait, on parlait tout à l'heure du Samsung Galaxy S24, ils font de l'IA sur ce qu'on a dit on device, c'est-à-dire on n'est pas besoin de connecter sur le cloud. On est directement sur le téléphone, donc on peut le faire hors connexion et ça coûte moins cher aussi parce qu'on n'a pas besoin de payer un fournisseur de cloud. Donc on sait qu'Apple travaille sur ça et tous les fabricants de smartphones travaillent sur ça. Google le fait déjà avec ses Pixel. Donc on sait aussi qu'Apple va essayer de trouver une IA qui fonctionne au niveau du système d'exploitation. Aujourd'hui, c'est important parce que toutes les fonctionnalités d'IA qu'on a, notamment sur Samsung, ça, c'est sur les applications. Il n'y a pas d'IA qui fonctionne au niveau du système d'exploitation qui permet de dire bah, « retrouve-moi tel truc dans tel... » voilà. Donc ça va être le gros, à mon avis, le gros focus d'Apple. Ils vont mettre beaucoup et ils sont très bons pour ça, généralement, pour avoir des softwares qui marchent au niveau de l'IA, parce qu'ils contrôlent l'OS et ils contrôlent le hardware, donc ils sont plutôt bons sur ça. La question qui va être intéressante aussi, c'est de voir qui alimente cette IA. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils ont commencé à parler avec Google, avec OpenAI, parce que leurs efforts pour développer des modèles de langage sont un peu en retard. Donc à voir aussi comment ça va s'articuler entre du Google, du Apple, de l'OpenAI et d'autres choses. Donc, on ne sait pas trop, on va voir comment ça se passe tout ça à la conférence en juin.
Ça va être intéressant. Clément, Fred, là-dessus?
Bah oui, Google a fait a priori, c'est ce que dit la rumeur depuis quelques mois, sauf que Google a dit que son IA en local fonctionnait avec un certain niveau de mémoire que ne proposent pas aujourd'hui les iPhones. Donc il faudra voir comment ça fonctionne. Mais c'est ce qu'on dit souvent quand on revient sur Apple et l'IA. Apple être obligé de quémander à Google ses services parce que leur modèle de langage n'est pas développé, alors que ça fait quand même plus d'une décennie qu'ils proposent un assistant personnel qui aurait pu être la première pierre pour développer une IA. Voilà. Bon, je me dis qu'Apple a quand même pas mal de retard sur le sujet. Et puis après, ça dépendra aussi de l'application, de l'applicatif, parce qu'aujourd'hui, l'IA, bon, c'est très théorique, mais il va falloir montrer un produit des consommateurs, leur dire voilà.
De l'IA qui parle à tout le monde.
Avec l'IA, et là je pense que c'est là qu'Apple a une carte à jouer, eh bien voilà ce que vous pourrez faire. Ce sont des applications très concrètes plutôt que simplement un service théorique d'IA. Bon, ça tout le monde le fait aujourd'hui.
Ouais, mais c'est marrant parce que tu parlais de l'assistant vocal. S'il y a une fonctionnalité sur laquelle les gens attendent enfin que l'IA vienne régler les limites qui sont quand même criantes de l'assistant vocal, mais limites que tu vas avoir chez Apple, mais que tu vas avoir chez tous les autres concurrents, c'est quand même l'assistant vocal. C'est-à-dire que ce que peut te faire un assistant vocal quand c'est pas directement une demande qui est liée à une application, c'est pas grand-chose à part te dire sur Google j'ai trouvé telle info. Donc la première application.
Et nous réveiller le matin aussi, c'est très pratique pour le réveil.
Voilà, c'est mets-moi la minuterie pour les œufs durs, tu vois. Voilà. Mais à part ça, l'assistant vocal c'est quand même aujourd'hui très limité en termes d'intelligence. En fait, c'est pas une intelligence artificielle, donc ça fait un cas d'usage important.
Mais on est d'accord que Siri, c'est il est abruti, quoi. Enfin, je veux dire, excusez-moi.
C'est une personne.
On est d'accord. C'est
au fond, c'est la diffamation, ça, François.
Non, en fait,
non. Mais quand on compare ça à l'IA générative de ChatGPT avec qui on pouvait avoir des conversations, des choses comme ça, quand vous pose, enfin, quand je parle de Siri, mais c'est pareil.
Et Siri, c'est quelle année?
Google Home,
2011.
C'est comme Google Home ou c'est comme Alexa.
Le problème, c'est pas le niveau, c'est le manque d'évolution qu'il y a eu. Entre le
et
moment où tu l'as sorti.
Forcément, tu fais l'analogie. Forcément, tu fais l'analogie.
C'est pour ça que je dis, c'est ce que les gens attendent en numéro 1. Et il y a un deuxième truc aussi. Il ne faut pas oublier que pourquoi Microsoft et Google bombardent comme des tarés sur l'IA. Parce qu'en fait, derrière, ils vont le vendre. Ils vont le vendre cher avec des très bons produits. Ils ont déjà les clients et ça va leur rapporter des milliards. Aujourd'hui, Apple, s'ils mettent autant de ronds sur l'IA que leurs concurrents qui, eux, avaient pris le marché du cloud, Et ben, à part faire un meilleur téléphone et un meilleur OS qui leur permet de garder un peu d'avance sur le marché du téléphone, ils vont le vendre à personne. Donc en fait, les moyens qu'ils peuvent mettre sont beaucoup plus limités que leurs concurrents qui, eux, ont un marché où de toute façon, ils vont pouvoir se faire de la thune derrière.
Il n'y a pas qu'une histoire de moyens, il y a une histoire. L'IA chez Apple, ça n'a jamais été très très bien développé pour une raison simple, c'est que les chercheurs en IA, ils adorent faire de la recherche et de collaborer avec d'autres. Chez Apple, ça n'existe pas. Chez Apple, c'est souvent fermé. Et donc, ils ont beaucoup, pendant des années, ils ont eu beaucoup de mal à attirer des chercheurs en IA parce que les chercheurs en IA voulaient contribuer, voilà, pas que travailler pour une boîte américaine, mais aussi contribuer à la recherche scientifique en général. Ils ont dû changer d'ailleurs de politique, mais ça reste assez fermé. Donc, ils ont toujours eu du mal sur l'IA et donc ils sont en retard. Et sur l'IA générative, très clairement, ils sont en retard. Ils ont pris le train après. Et là, maintenant, ils sont en train d'investir beaucoup, mais ça prend du temps. Et pour être très performant par rapport à un Gemini ou à un ChatGPT, eh bien, il y a encore du chemin à faire.
Mais c'est vrai qu'une culture de l'open source, quand tu regardes chez Google, par exemple, nous, une techno, je sais pas, qu'on utilise qui s'appelle Kubernetes, a été développée par Google puis mise en open source. N'importe quel chercheur rêve de faire ça, à savoir un produit qui est mondialement connu et utilisé. Chez Apple, on te dit, tu vas bosser sur la fonctionnalité, point. C'est moins sexy.
Juste pour rappeler, Transformer, donc, est la technologie qui permet ChatGPT, elle a été conçue par Google.
Bien sûr.
Donc ChatGPT n'existe pas.
C'est d'autant
pas
plus rageant pour Google,
Google
d'ailleurs. Oui. Hein, c'est clair.
Super fier.
Dernier petit sujet, chapitre lié à Apple. Après, on passera à autre chose, aux baisses de vente de Tesla. On passera à l'AI Pin aussi, qui visiblement est un four monumental, puisque les premiers journalistes américains l'ont testé. C'est pas joli, joli. Avant de parler tout ça, Apple, qui, eh bien, j'ai l'impression, a une obsession, c'est de sortir du joug industriel de la Chine. Parce que la complexité géopolitique fait que il faut plus mettre ses œufs dans le même panier aujourd'hui. On ne sait pas ce que demain peut réserver Apple. Et si demain, les tensions sont à leur paroxysme entre la Chine et les États-Unis, Apple risque d'en pâtir. Et donc, on le voit, je crois qu'il y a eu 10% des iPhones qui ont été fabriqués en Inde ces derniers mois. Nouveau pays, terre d'accueil de l'industrie d'Apple, ça pourrait être le Vietnam, Jérôme.
Oui, et ils sont déjà, Apple produit déjà quelques iPads au Vietnam.
Je crois des AirPods aussi.
C'est possible. Le Vietnam a l'avantage, c'est que c'est moins cher que la Chine aussi. La Chine, il y a le côté géopolitique, mais il y a le côté aussi que les salaires commencent à être plus élevés qu'ailleurs, donc il y a ce côté-là. Et ce qui est marrant, c'est que Tim Cook était en Chine il y a quelques semaines, et il a dit, l'une des phrases qu'il a dites, c'est que sans la Chine, Apple n'existerait pas, en gros. Il n'y aurait pas d'iPhone sans la Chine, mais en fait, il y a un peu un double discours.
Oui.
Parce que il y a le côté,
C'est vrai, c'est le cas, mais on va essayer que ce soit plus le cas, quoi.
Et donc le Vietnam, ouais, c'est le prochain à voir ensuite, parce que c'est toujours très complexe en fait de déplacer des usines. C'est une chaîne logistique énorme qui fait que, par exemple, en Inde, ils ont mis des années avant de perfectionner tout ça.
Oui, il y a deux intérêts pour le Vietnam. Effectivement, c'est la dimension en Chine, le pouvoir d'achat. Il y a quand même une classe moyenne qui a un très fort pouvoir d'achat. Il faut quand même payer les gens dans ces usines. Pour Apple, ça coûte cher. Alors on dit Apple, mais c'est surtout ses sous-traitants, c'est Foxconn. Je crois qu'Apple a investi, enfin en tout cas le chiffre qu'a donné Apple, c'était 16 milliards de dollars investis depuis 2019 au Vietnam. Donc c'est quand même pas rien. Et puis surtout, le Vietnam, c'est pas qu'un producteur, c'est aussi un consommateur. Et il y a un marché qui se développe fortement au Vietnam. Et c'est en tout cas là-dessus que va Apple. Je crois qu'ils ont ouvert leur store au Vietnam. Alors, il n'y a pas encore d'Apple Store, mais on peut commander des produits. Donc, c'est à la fois des ressources de production. Et c'est aussi demain un marché qui peut être important. Hein. C'est plus de 100 millions d'habitants, le Vietnam.
Ouais. Après, aujourd'hui, il va falloir la capacité d'Apple à produire des biens haut de gamme sur ces marchés-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est produit en
Inde,
Vietnam,
c'est l'iPhone 15 de gamme. Hein.
C'est l'iPhone 15, je crois, et pas le 15 Pro.
Ils avaient commencé par le SE, etc. Ouais. Donc, il y a une question de est-ce que tu vas avoir la chaîne de sous-traitance qui va pouvoir. Parce que,
Oui, mais ils vont y arriver, ça prendra du temps, mais ils y arriveront, non?
C'est
Foxconn.
C'est un énorme.
Là, en fait, ils délèguent tout à Foxconn. En fait.
Et là, cette année, par exemple, c'est la première fois.
C'est le problème de Foxconn.
Non, attends, quand on dit ils délèguent tout, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur eux, mais en revanche, la chaîne de qualité, les contrôles que tu fais, etc. La transmission des connaissances. C'est l'élite mondiale de la gestion des fournisseurs, c'est Toyota. Quand tu regardes comment Toyota gère ses fournisseurs, qui sont des fournisseurs exclusifs, avec lesquels il y a des chartes de qualité, avec lesquels il y a des contrôles, des accords secrets qui sont passés sur on file les trucs avant, mais ça ne doit pas sortir. Un bon fournisseur, une relation pour la créer et le mettre au niveau, en l'occurrence le Vietnam, parce qu'ils vont devoir les mettre au niveau, c'est pas si simple. C'est pas qu'on délègue qui on veut, tu vois.
Bon, La suite, ça va être intéressant de voir comment tout ça petit à petit va changer un peu le partage de l'industrie d'Apple. On parle aussi des États-Unis. Hein. Est-ce que les US pourraient demain...
Mais ils ont essayé que de construire, ouais. de fabriquer des Mac aux États-Unis.
Mais ça coûte très très cher.
Ils ont arrêté en fait.
Ouais, ils ont arrêté.
Ça coûte cher et surtout il n'y a pas les compétences. Ouais, en fait, c'est ça le vrai problème.
Mais idem pour Foxconn aux États-Unis, Foxconn au Brésil. Ouais. Voilà, quand on n'est pas dans l'écosystème.
Mais je crois qu'au Brésil, Apple fabrique des iPads, hein, des choses comme ça, ou même des iPhones. Hein. Ils ont une usine Foxconn. Alors,
en tout cas, ils avaient des ambitions de pour dizaines des raisons fiscales, de milliers, je crois, ou de TVA. D'embauches de salariés et finalement elles se sont avérées décevantes.
Messieurs, on revient dans un instant. Tesla, là aussi, on a parlé du gadin d'Apple, le gadin de Tesla.
Plus inquiétant, je pense.
D'ailleurs, Apple voudrait, en tout cas c'est la rumeur, voudrait se séparer de 10% de ses effectifs.
Tesla.
Pardon, j'ai dit quoi, Apple ?
Apple.
Non, pardon,
ouais.
Tesla.
Mais qui lance des rumeurs comme ça.
Moi, tout ça pour que les gens restent après. Apple va fermer, les amis. Pour en savoir plus, vous restez avec nous, c'est après l'info éco. Vous ne me croyez pas, vous avez raison. À tout de suite.